La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence. Je suis heureux de vous retrouver, fidèle au rendez-vous de la mêlée de l'info, pour commenter l'actualité nationale avec les deux invités de ce numéro. Je salue Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, et Christian Autier, journaliste et écrivain. Bienvenue aussi à vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation à commenter et analyser les résultats du premier tour des municipales, le sujet qui domine l'actualité nationale depuis dimanche. Nous sommes pile au milieu du guet entre les deux tours de ces élections, quelques jours après que les scores du premier tour sont donc tombés dimanche soir. Je rappelle que le taux de participation a été de 57,1%, en baisse de 6,5 points par rapport à 2014. On fait abstraction de 2020 en pleine période Covid. On relève aussi ce qui a été considéré comme une percée de la France insoumise et du Rassemblement national dans de nombreuses villes. Quelques surprises ont eu lieu dans plusieurs métropoles par rapport à ce que pronostiquaient les instituts de sondage. Et puis bien sûr, il faut noter les fusions annoncées dès le lendemain du scrutin entre des listes du Parti Socialiste, des écologistes et de la France Insoumise dans certaines grandes villes, dont Toulouse comme chacun sait. Alors de manière générale, quels sont selon vous les principaux enseignements de ce premier tour et les rapports de force qu'ils dessinent, qu'ils mettent en évidence pour le second et peut-être même en vue des échéances de 2027. Guillaume Agulot.
Oui, bonsoir et merci pour votre invitation. Je crois que déjà, la fin de votre question, et j'allais dire presque le début de ma réponse. Est-ce qu'on a assisté au premier tour des élections municipales ou déjà un avant-premier tour des élections présidentielles? Ça, c'est véritablement ce qui s'est joué. D'abord, on l'a senti hein, pendant toute cette campagne, bien évidemment. C'est le jeu lorsqu'on a deux scrutins quand même majeurs qui se suivent à assez brève échéance, d'autant plus qu'on le sait, ce sont les deux scrutins auxquels les Français sont les plus attachés, le scrutin local et le scrutin national pour la présidentielle. Ben là où justement, il y a quand même des choses à en dire, c'est d'abord effectivement une abstention qui monte, y compris pour un scrutin, encore une fois, auquel les gens sont particulièrement attachés. Historiquement, ça avait toujours été le cas. Vous avez raison de faire abstraction de celui de 2020. Les conditions, chacun s'en souvient, étaient quand même un petit peu complexes, et dans l'organisation et dans la réalisation du vote. N'empêche, par rapport à 2014, on perd quand même un pourcentage considérable de participation pour un premier tour. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Alors, ce n'est pas la première fois hein, qu'on le dit, que ce soit à ce micro ou ailleurs, effectivement, cette augmentation continue de la participation qu'on n'arrive pas ni à endiguer, ni à freiner. De l'abstention, pardon. Qu'on n'arrive ni à endiguer, ni à freiner, ni à stabiliser. Ça, je crois que là, effectivement, ça dit quelque chose. En premier lieu, bien évidemment, de la défiance vis-à-vis du personnel politique,
des élus,
et peut-être même qu'on commence à vraiment, réellement, majoritairement, largement passer au-delà de la défiance et qu'on est passé à l'indifférence. Et ça, c'est peut-être, j'allais dire, encore plus inquiétant, parce que quand il y a de la défiance, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt ou une appétence. Une déception, bien sûr, mais un intérêt, un regard. Je pense qu'on est en train de basculer du côté de l'indifférence, et ça, c'est possiblement ce qui est le plus inquiétant. Au niveau des grandes logiques des votes, une augmentation, oui, effectivement, des votes des extrêmes, LFI, RN, en fait, une augmentation... Si on regarde les chiffres au plan national, pas tant que ça, en réalité. Par contre, un ancrage. À ça, là, personne ne pourra le nier. On assiste véritablement à un ancrage à des niveaux hauts, à des niveaux considérables, du vote de droite extrême et du vote de gauche extrême. C'est un ancrage, et celui-là, il va se retrouver, par contre, que l'on soit en ville ou en campagne, que l'on soit en territoire urbain ou rural, que l'on soit en territoire urbanisé, moins urbanisé, que l'on soit en territoire industrialisé ou moins industrialisé. On est en train, là, des spécificités, des particularités sont en train de s'effacer vis-à-vis de ça. C'est une tendance générale. Voilà, ça, c'est les grandes choses que l'on peut noter. Au plan national, et puis évidemment, ensuite, au plan locaux, je vais mettre un X, un pluriel, parce que Toulouse, mais aussi ailleurs, on a, vous l'avez dit, assisté effectivement à des fusions extrêmement rapides. Et donc là, on ne fera croire à personne qu'elles se sont d'un seul coup déroulées
entre le dimanche soir et le lundi matin.
22h28 et 23h53, ça veut dire que contrairement à tout ce qui avait été dit, des deux côtés, du côté, on va dire, de LFI, du côté du PS et de ses alliés, on ne s'allie pas, tant qu'il n'y a pas de clarification, les conditions ne sont pas réunies, etc., etc. En réalité, là, ce que c'est en train de montrer, c'est qu'en réalité, il y avait d'un côté les discours, et de l'autre côté, une réalité très avancée de terrain. Et bien, peut-être que, par rapport à ce qui va se jouer, je pense qu'on va y revenir, évidemment, il faut peut-être voir aussi, là, une des raisons de l'incompréhension, du doute, de la déception et peut-être un peu aussi de la colère qui est en train de se manifester aujourd'hui, encore tout à l'heure, dans les rues de Toulouse. Et peut-être que nous en dirons de nouveau quelques mots tout à l'heure.
Christian Autier, après cette première intervention de Guillaume Agulot, vous, votre vision générale de ces résultats et les commentaires, les analyses que vous en tirez?
Oui, je partage ce que vient de dire Guillaume Agulot, notamment sur l'analyse de l'abstention et son propos. Bon, on reviendra après, j'imagine, sur les fusions, plus précisément sur les fusions LFI-PS. Mais après, je pense que sur l'interprétation au plan national, bon, il faut être très prudent et très, très mesuré. Je citais quelques exemples. Si vous prenez le score de Sarah Knafo à Paris, qui a fait un peu plus de 10%, c'est un bon score. Ça ne veut pas dire que le parti d'Éric Zemmour a réussi ce test des municipales. Le score du parti d'Éric Ciotti allié au Rassemblement National à Nice aussi est excellent. Il va vraisemblablement conquérir la ville.
Oui.
Ça ne veut pas dire que le bilan pour le RN ou ses alliés sera aussi brillant dimanche soir. Et on peut même faire le même constat pour LFI. Alors certes, le parti de Jean-Luc Mélenchon a fait d'excellents scores dans quelques grandes villes, dont Toulouse évidemment, Roubaix, etc. Il a capitalisé un vote, comme Guillaume le disait, dans les grandes métropoles, les gentrifiées, boboisées, dans des banlieues plus populaires. Mais je me souviens, quelques semaines avant ces élections, les sondages pour la présidentielle donnaient Jean-Luc Mélenchon entre 10 ou 12 et en faisaient la personnalité la plus rejetée du paysage politique français. Donc voilà, il y a des vérités qui sont réelles, mais qui sont parallèles et qui ne se recoupent pas forcément sur le plan national, y compris, ça, peut-être qu'on y reviendra aussi, sur la disparition du Bloc central ou du Parti Renaissance qui... Quand on regarde dans les détails, bon, et pas si évidente que ça, même si certains chiffres le laissent à penser.
Oui, alors je reviens sur la participation. Une question qu'on peut se poser, est-ce que cette faible participation favorise justement des partis comme le Rassemblement national et la France insoumise qui, a priori, sont peut-être plus aptes à mobiliser leurs électeurs? Et donc, à partir de là, est-ce que les résultats du second tour, dans certaines villes, ne vont pas dépendre en partie de la capacité de leurs concurrents à mobiliser les abstentionnistes du premier? Guillaume Agulot.
Vraie question. Y répondre par oui ou par non, ça serait très, très glissant. Donc, je ne vais évidemment pas m'y risquer. Ceci dit, on parle là quand même aussi de choses qui sont objectives. Que ce soit le RN ou LFI, on le sait, ils ont une capacité de mobilisation qui est conséquente. Il n'y a qu'à voir lors des campagnes. Hein. Les meetings sont très, généralement très pleins, très remplis, sont très réguliers surtout. Hein. C'est quand même plus difficile de mobiliser plus régulièrement des personnes. Et ben, eux, ils y arrivent. Ils y arrivent parce que ce sont des partis qui se sont structurés, qui se sont dotés de moyens de communication, de mobilisation de leurs militants, de leurs sympathisants qui sont conséquents, qui sont en interne, qui sont en externe. Donc ça, c'est effectivement, on peut avoir éventuellement cette participation haute. Il y a un autre élément aussi qui peut nous le dire, c'est qu'effectivement, on a bien vu quels étaient les territoires sur Toulouse qui ont le plus voté. C'est là où je me suis un petit peu plus penché, bien sûr, sur les résultats, territoire par territoire. Vous l'avez dit, hein, le centre-ville boboifié et les quartiers, avec des scores qui sont vraiment très, très conséquents. Comment faire pour aller au-delà ? Effectivement, est-ce qu'on n'est pas assez proche, on va dire, d'un seuil à ce niveau-là. Et donc, si eux sont assez proches, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour l'autre liste d'aller chercher une mobilisation plus importante ? Ça pose quand même un vrai problème, ça. Ça veut dire qu'on a aussi, face à ces blocs qui sont très dynamiques, posés aux extrêmes, on a effectivement un monde politique plus classique, plus cohérent, qui, lui, peine à mobiliser et qui n'arriverait éventuellement, c'est même pas sûr, il l'espère évidemment, mais ça n'est pas sûr, mais qui n'arriverait à mobiliser que face à la menace. C'est-à-dire que concrètement, ce sont des partis aujourd'hui, des structures qui n'arrivent plus à mobiliser pour un programme, pour une idée, etc., mais qui n'arriveraient donc à mobiliser que contre, parce que le danger est là et qu'il faut effectivement lui faire barrage, etc. Et c'est peut-être ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut analyser comme étant un des signaux de plus d'inquiétude que l'on devrait tous partager, je pense, par rapport à la vitalité de notre démocratie.
Christian Thier, vous êtes d'accord?
Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit, effectivement, on paie des années de désidéologisation, de dépolitisation des Français. Et donc, alors, il est très difficile d'interpréter effectivement les flux d'abstentionnistes, hein, même les professionnels des sondages n'y arrivent pas. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'effectivement, l'électorat modéré, j'allais dire indifférent, qui, voilà, la politique, on ne s'y intéresse pas trop, mais on s'y intéresse quand on a peur d'un extrême ou d'un autre. Et là, on va voter, effectivement, pour faire rempart, pour faire barrage, etc. Et la réélection d'Emmanuel Macron était symptomatique de ce phénomène. Il n'avait guère de projet, la guerre en Ukraine a occulté les projets, mais on a voté, évidemment, comme, encore une fois, contre Marine Le Pen, parce que Emmanuel Macron était rassurant, et pas forcément sur le fond d'un programme que personne ne connaissait réellement. Et ça, effectivement, enfin, on verra donc dimanche soir en fonction des villes, mais l'électorat, a priori, l'électorat modéré devrait peut-être un peu plus se mobiliser que les gens réellement politisés qui ont évidemment voté au premier tour.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins un vote d'adhésion comme ça pouvait exister à une certaine époque, mais des votes pour faire barrage, comme on dit.
Le vote castor.
Voilà, le vote castor, comme on dit. Alors, une chose, vous avez évoqué les sondages qui avaient du mal aujourd'hui, et on l'a vu, notamment à Toulouse, les sondages se sont quand même vraiment trompé, même de beaucoup, parfois de 4 ou 5 points sur les trois candidats principaux, mais ça a été vrai aussi à Lyon, où Jean-Michel Aulas était surévalué par rapport, et Doucet, lui, sous-évalué. Est-ce que ça montre aussi à quel point l'électorat aujourd'hui est volatile, indécis, au point qu'effectivement les instituts de sondage n'arrivent plus aujourd'hui à corriger les résultats tels qu'ils peuvent sortir dans un premier temps de leur moulinette? Guillaume Agulot.
Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème de crédibilité, justement, du coup, de ces résultats qui fait qu'on est sous sondagite aiguë, on en a besoin en permanence, que dit le dernier sondage, etc. Et cette course au questionnement, parce qu'in fine, c'est de ça, est-ce que ça ne pose pas un problème aussi, j'allais dire, clairement, de méthodologie de fonctionnement de la part de ces instituts?
Apparemment, oui.
Qui, voilà, qui aussi ben, se font payer quand même pour ça. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas donneur d'ordre sur ces sondages-là, mais je pense que je serai au niveau de quelques candidats, mais dans les deux cas, hein, en sous-évaluation ou en surévaluation. Si j'avais été moi-même ordonnateur d'un de ces sondages, par exemple sur Toulouse ou ailleurs, vous avez évoqué Lyon, on pourrait parler aussi de Paris où il y a eu de la même manière aussi des décalages assez étonnants. Au moment de me présenter la facture, je ne sais pas trop quelle pourrait être ma réaction. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est problématique. Et quand on interroge les sondeurs, parce qu'ils ils deviennent eux-mêmes des hommes politiques ou des personnalités politiques puisqu'ils sont présents sur les plateaux le soir des élections.
Oui, ils viennent expliquer.
Voilà, ils viennent expliquer qu'ils n'ont pas su expliquer. Mmh. Voilà, en gros, pour le faire vite. Et qu'ils expliquent, ils disent « Ah oui, mais c'est effectivement, les électeurs sont volatiles. » Et le fait qu'il n'y ait pas forcément de remise en cause interne, moi, me pose un petit peu problème. C'est-à-dire, pour le dire autrement, quelle est la valeur que nous pouvons aujourd'hui accorder à un sondage, j'allais dire, quel qu'il soit, et in fine, comment on fait, nous, pour s'en désintoxiquer ? Parce que je pense que, de plus en plus, nous sommes devenus une société qui est intoxiquée au sondage. Ça apporte quoi ? Parce qu'in fine, c'est pas ce qui va arriver.
Oui, y compris dans les directions et les bureaux de partis politiques, parce qu'effectivement, lorsqu'ils viennent expliquer qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'eux, on pourrait répondre aux sondeurs, alors à quoi vous servez et pourquoi on vous paye ? Bon. Christian Autier, c'est quelque chose qui vous interroge aussi ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a sans doute, alors je ne suis pas un connaisseur aujourd'hui de la façon dont fonctionnent les instituts de sondage, mais je pense qu'il y a un problème de méthodologie, ou voire plus globalement de professionnalisme. En revanche, je me souviens qu'il y a 30 ans, quand j'étais étudiant à l'IEP Toulouse, on avait des cours justement sur les enquêtes d'opinion et les sondages, sur les méthodologies, etc. On se rendait compte à quel point c'était pointu. C'était quand même, il y avait des grilles de fonctionnement, d'interview, d'entretien. Voilà. Aujourd'hui, comment on fait ? Est-ce que c'est par le smartphone ? Est-ce que c'est par Internet ? Est-ce que c'est oui, non, en 5 secondes ?
Je n'ai jamais eu affaire à l'institut de sondage.
Voilà, moi aussi. Donc, mais je pense, et on peut constater ça, hélas, dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, beaucoup d'autres métiers, je pense peut-être qu'il y a un déclin de la profession qui explique parfois des résultats totalement surprenants. Encore une fois, pour ne prendre que Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui était donné à 32-33, il est à 38. François Picmal à 23, il est à 27. Enfin, c'est quand même... Là, on est le double de la marge d'erreur.
À chaque fois, effectivement, la marge d'erreur, on dit que c'est 2,5-3%. Mmh. Là, on est quasiment au double.
Alors, je vais aussi juste préciser, pour ne pas trop charger la barque, hein, bien évidemment, que ce n'est pas simplement un problème en France. Parce que si vous traversez l'Atlantique,
encore une fois.
Lors de la dernière élection, et déjà la fois d'avant, lors de l'élection précédente, rappelons-nous qu'on nous avait clairement expliqué en novembre dernier, c'était sûr, c'était certain, c'était absolu, Kamala Harris allait être largement élue 47e présidente des États-Unis d'Amérique, et Donald Trump était totalement à la ramasse. Contrairement à la première élection de Donald Trump, où là le suspense s'est quand même prolongé très très longtemps, on se souvient des fameux épisodes, là ça a été plié en deux heures.
Il n'y a aucun doute.
Et le RN, qui était aux dernières législatives, donnait largement vainqueur. Il y a eu une vague RN, une majorité RN fait conquérante, et qui n'a pas eu lieu.
Alors, on revient sur cette histoire de la percée de la France insoumise à l'occasion de son premier tour, ainsi que celle du RN et de ses alliés du DR, qui confortent leur position, comme vous l'avez dit, Guillaume Agulot, dans les villes où ils étaient déjà implantés, qui les confortent d'ailleurs de façon très large. On peut penser à Robert Ménard, à Louis Alliot et à quelques autres. Ils font aussi, dans certaines métropoles comme à Marseille et Nice, où Éric Ciotti pourrait être élu, de gros scores, beaucoup plus gros que ce qu'il faisait avant. Est-ce que vous avez la même lecture de ces résultats, ou est-ce qu'il faut les nuancer ? Est-ce qu'il y a une percée, selon vous ? Est-ce qu'il s'installe maintenant durablement dans le paysage politique, dans certaines villes, dans certaines métropoles ou dans certains départements ?
Non, il n'y a pas de percée du RN. Il n'y a plus de percée du RN parce que la percée du RN, elle a déjà eu lieu. De toute manière, depuis un petit moment.
Dans ces élections-là, c'est peut-être un peu différent.
C'est peut-être un petit peu différent, mais on a un ancrage. Ce qui nous est annoncé comme étant une percée ou une augmentation très très forte, ce sont les intentions de vote. Par qui ? Les sondages, justement, on vient d'en parler, je ne vais pas... revenir dessus. Quand on se frotte au réel, et le réel, c'est chacune dans son isoloir avec sa petite enveloppe et son bulletin, et quand, in fine, à la fin de la journée, on ouvre tout ce qui est arrivé dans l'urne, on se rend compte qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de percée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Mais on n'est plus, aujourd'hui, sur la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que le RN n'est plus simplement, quand il n'était qu'une percée, il pouvait n'être vu effectivement que comme un vote
de mécontentement, ou de
désespoir, de contestation, de tout ce que l'on veut, etc. Aujourd'hui, on n'est plus sur une percée, par contre, on est sur une stabilisation, ça veut dire que ça devient clairement un vote d'adhésion, et c'est un vote d'adhésion qui progressivement est en train d'augmenter.
Oui, qui s'étoffe peut-être.
Qui s'ancre, qui s'étoffe, etc. Donc, sur LFI, on n'en est pas encore à ce point-là. on en est sur un ancrage et on est effectivement encore sur une augmentation. On n'est pas au même niveau, hein, d'ailleurs, au plan non. national, sur, tant dans les sondages que dans les résultats. Si vous regardez les chiffres nationaux, les résultats du RN sont encore largement supérieurs aux résultats nationaux.
Sachant qu'en plus, il n'y avait pas des candidats partout.
De LFI, même dans la ville de résidence où est le président du RN. Il devait être tellement, je pense, occupé, accaparé par la situation nationale qu'il n'a pas réussi, dans la ville où il réside, à monter une liste Rassemblement National, ou à moins qu'il n'y ait pas de membres suffisants d'adhérents à ses idées. Sur, je n'en sais rien. Mais tout ce qui est, toujours est-il qu'on est aujourd'hui sur des mouvements qui sont sortis simplement, électoralement parlant, de la contestation, ce qu'ils sont toujours politiquement et médiatiquement, pour devenir à de l'ancrage. Et ça veut dire qu'on est en train de vivre un premier basculement. Est-ce que ce basculement va se traduire ensuite dans le discours ? Eh bien, du côté du RN, ça s'est fait. On en a beaucoup parlé. Une dédiabolisation, une normalisation des rapports. Oui. C'est devenu le parti du costume cravate. C'est devenu la
respectabilité.
La respectabilité. On rentre dans le moule. Après avoir dénoncé le système tant d'années, on s'y installe confortablement, etc. C'est pas encore le cas pour LFI, très loin s'en faut, au niveau du fonctionnement. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question. Est-ce que quand LFI passera à ce stade-là de conquête de respectabilité, est-ce que ça marchera ? Ça, j'en suis moins sûr, pour deux raisons. D'abord, les électeurs du RN, ce n'est pas les électeurs de LFI. Et les électeurs de LFI, je ne suis pas sûr qu'ils soient aujourd'hui aptes à accepter une quelconque respectabilisation de leurs représentants, premièrement. Et deuxièmement, je pense surtout que aujourd'hui, les têtes de gondole, si vous me passez l'expression, les têtes d'affiche, les présentations qui sont faites aujourd'hui des élus et des têtes, des premiers pardons de LFI, je pense qu'ils ne sont vraiment, très majoritairement, absolument pas prêts à une quelconque quête, d'une quelconque responsabilité de quelque nature que ce soit.
Question entier sur la percée supposée, hein. En tout cas, c'est ce que beaucoup de commentateurs politiques ont pu dire dimanche soir, du RN et de la France insoumise, peut-être plus encore de la France insoumise d'ailleurs.
Oui, juste pour une petite précision, vous avez cité Robert Ménard, il me semble qu'à Béziers, il avait une liste du RN face à lui. Enfin, il n'est plus tout à fait... il a été élu
précédemment. Ah, mais il n'est plus membre du RN.
Non, mais comme vous l'aviez cité avec Ciotti et les autres.
Oui, vous avez raison.
Et Louis Alliot.
Vous avez raison.
Mais oui, bon. Je pense qu'il y a un ancrage, effectivement, on voit un ancrage du RN. Et pour prolonger la comparaison avec l'électorat et le profil des élus LFI, moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'élus LFI, du moins ceux qui sont médiatisés dans ces élections, enfin, que ce soit aux législatives et là aux municipales, j'allais dire, ressemblent aux élus RN d'il y a 10 ans. C'est-à-dire des gens, sans être méprisants, pas très dégrossis, pas très professionnels, un peu gaffeurs, etc.
Je ne sais pas qui vous pensez.
Et beaucoup, Sébastien Delogu, etc. Enfin,
la liste est longue.
Tous ces profils voilà, d'amateurs de la politique. D'ailleurs, au sens, c'est bien aussi la vitalité d'une démocratie. C'est de faire monter des gens voilà, qui n'ont pas forcément les qualifications évidentes, qui n'ont pas suivi les grandes écoles et qui ont tout à fait le droit d'être élus comme les autres. Mais voilà, donc sans critiquer ces profils, c'est amusant, enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a un peu cette correspondance. Et le RN, à force des choses, se professionnalise. Les Louis Alliot, les Racline, etc., tous ces élus locaux prennent de l'expérience, leurs équipes aussi, ceux qui leur succèdent, etc. Donc on voit, et effectivement, à ce jour, LFI n'a pas, et effectivement, comme Guillaume Agulot le précisait, ils n'ont pas cette vocation à la respectabilité ou à se fondre dans l'establishment, puisque si on en croit les pensées, les stratégies qu'on prête à Jean-Luc Mélenchon, il mise sur un électorat qui est en rupture, donc il vise les ex-gilets jaunes les plus radicalisés, les anti-Covid, les anti-systèmes, les complotistes, pour voilà, tous les énervés, comme on dit. Et on va pas séduire ces gens-là avec des propos très lisses. Alors on peut, selon les circonstances, mettre une cravate et bien aller chez le coiffeur. Mais bon, les LFI vraiment est partagé entre plusieurs publics électoraux. Et pour l'instant, le profil radical, agressif et violent prime sur la respectabilité.
Alors on en vient à ces histoires de fusion entre le Parti Socialiste, la France Insoumise, et puis aussi les alliés du PS, comme vous l'avez dit, Guillaume Agulot, Europe Écologie Les Verts et quelques autres. Alors, on a parlé de liste de fusion technique, c'est un terme que j'ai découvert. toujours pas très bien compris ce que ça voulait dire. Donc ils se sont constitués dès lundi dans plusieurs grandes villes et métropoles. Il y a eu évidemment des réactions outrées de la part de leurs adversaires, mais aussi il y a eu une certaine désaffection de colistiers, certains venant du Parti radical de gauche, d'autres de Place publique, parfois du MRC, et même certains du PS, on en a vu notamment à Toulouse. Est-ce que vous vous attendiez à ces alliances, Guillaume Agulot? Je sais que oui, malgré les engagements d'Olivier Faure et de certains dirigeants du PS. Mais qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça va avoir pour conséquences aussi? Parce qu'une fois qu'on aura voté dimanche, il y aura quand même des conséquences. Ces alliances ne vont pas se défaire du jour au lendemain.
Qu'est-ce que ça m'inspire? Beaucoup de choses. Je ne sais pas si le temps d'antenne qui m'est imparti suffirait à tout le dire, mais je pense que de toute façon, c'est une réaction qui n'est pas que la mienne, qui est largement partagée. J'hésite entre plusieurs termes par rapport à cette fusion technique qui avait été dite, entre une fatigue, une vraie fatigue de constater qu'effectivement il y a des structurations politiques qui n'ont décidément pas de parole et qui pour autant prétendent diriger et s'engager. Parce que, ou alors c'est mes oreilles, moi j'ai clairement entendu celui qui était la tête de liste socialiste à Toulouse nous dire 5 jours avant le premier tour « Ah mais si je suis second de gauche à ce premier tour, je me retire. » Il l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, ce sont ses propres mots. Bon, et dès le soir même, évidemment, on fusionne. Donc déjà, c'est quand même un vrai problème par rapport au manquement, j'allais dire, à sa propre parole. Puis c'est un vrai problème par rapport au manquement à la morale, à tout ce qu'on voudra, au niveau des valeurs. Il nous explique, effectivement, les socialistes qui suivent ce mouvement et ceux qui sont encore dans cette liste nous expliquent qu'ils sont conformes à leurs valeurs. On ne peut pas 5 jours avant un premier tour, dénoncer les propos antisémites, qui ont été réels, du chef de la France insoumise. Rappeler que toute fusion est impossible en l'état. Ce sont là encore ses propres mots.
Sans clarification.
En l'état. N'avoir eu ni clarification, ni remise au clair de ces choses-là, et se jeter dans les bras, dont on sait très bien qu'ils ont été ouverts, non pas tellement pour embrasser, mais plus pour étouffer, de celui que l'on a dénoncé. Comment peut-on penser que sur des questions qui sont quand même un peu centrales aujourd'hui dans la vie politique, je veux dire l'antisémitisme, tout le monde le sait, c'est redevenu une plaie, des actes, des propos, des violences. On est 14 ans après ce qui s'est passé à l'école aux oratoires aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que ça a des conséquences. C'est pas simplement des mots en l'air. Ça n'est jamais des mots en l'air, des propos antisémites. Comment peut-on d'un côté s'indigner, s'insurger, les dénoncer, exiger des clarifications, ne pas les obtenir et se jeter dans les bras, et venir après nous parler de principes et de valeurs? Ça, c'est quelque chose. Et là, quand je dis, honnêtement, je n'ai pas le sentiment que ce soit simplement Guillaume Agulot ou le Printemps républicain qui s'exprime, parce que ce que j'ai constaté, et ce que chacun a pu constater, c'est que c'était une réaction qui était largement partagée, y compris parmi des personnes qui pouvaient être de sensibilité de gauche. La liste de François Briançon, c'était, comme toutes les listes qui présentent ici à Toulouse, 69 candidats. On est en fusion, donc évidemment, il y en a qui vont disparaître. C'est la règle, évidemment. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal en cas de fusion. Je note quand même qu'il y a 7 candidats sur 69. C'est 10% qui ont annoncé, 7 coulissiers, oui, qui ont annoncé publiquement qu'ils claquaient la porte. Ils ne se sont pas contentés de partir.
Oui, sans rien dire.
Fût-ce sur la pointe des pieds ou d'une manière. Ils ont annoncé publiquement 10% de la liste refuse ce fonctionnement, etc. Est-ce que ça va se traduire par le départ également de 10% des électeurs de François Briançon au premier tour? J'en sais rien. Je suis pas. Est-ce que ça va se traduire par plus? Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que je constate depuis dimanche soir et lundi matin, dimanche soir, le début des tractations, lundi matin, l'annonce de la fusion définitive, que les réactions, on va dire, à gauche, pour aller très largement, sont beaucoup plus importantes que ce que je crois eux-mêmes escomptaient en matière du... Ils s'attendaient bien, évidemment, qu'on n'allait pas tout le monde n'allait pas leur tresser les couronnes de laurier, mais je pense que l'ampleur de la réaction, imite même parfois presque épidermique, est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération, y compris, bien évidemment, pour savoir si ce sont des gens qui vont se contenter de s'abstenir ou qui iront peut-être franchir une sorte de Rubicon.
Oui, alors on a parlé beaucoup de Toulouse, évidemment, ce qui peut se comprendre. Nous sommes à Toulouse, mais il y a eu des listes de fusion aussi à Lyon, à Bordeaux. Est-ce que vous pensez qu'il y aura les mêmes conséquences sur l'électorat?
Moi, ce que je sais, c'est que la règle était... Il n'y a pas d'accord national, mais en fait, il y a des fusions partout.
Partout, ouais.
Voilà. C'est, moi, je constate ça et je me pose vraiment des questions par rapport à la fiabilité des valeurs qui sont censées être portées.
Christian Autier.
Moi, cette séquence, comme on dit, m'a inspiré du dégoût et du mépris. C'était vraiment très douloureux de voir effectivement, du jour au lendemain, le Parti Socialiste, les socialistes à Toulouse, ailleurs, mais bon, c'est Toulouse qui m'intéressait au premier rang, s'allier à un parti passionnément antisémite. Vous soulignez à juste titre que 10% des membres de la liste sont partis. Il faut les saluer, les citer, M. Marc Stulzmann, les élus MRC, Chemin de Nantes, les élus du Parti Radical de Gauche. Mais
Émilie Dalix,
10%, c'est
Lucas
pas
Duval qui y intervient souvent aussi.
On peut voir c'est le verre vide ou le verre plein, mais 10%, hélas, enfin... Je sais pas, c'est pas beaucoup non plus, et voilà. Et moi, j'ai pensé, j'avais une image assez plutôt de, je trouvais comme beaucoup de gens, François Briançon plutôt sympathique.
Il
incarnait
le
socialisme cassoulé, comme on dit, rat de soc, rassurant. Et de voir ce ralliement, ce reniement des voilà face à un sujet avec lequel on transige pas, et de voir c'est comme Jean-Luc Mélenchon les a très bien nommés deux ou trois jours avant, ces gros combinards. Aller à la tambouille en quelques heures, entre le dimanche soir et le lundi matin, c'est un spectacle assez sidérant, et donc je me remets à peine.
Alors vous avez employé un terme qu'on entend concernant la France insoumise, parti passionnément antisémite. Guillaume Agulot, vous considérez que c'est un parti passionnément antisémite ou c'est un parti où un certain nombre de dirigeants flattent un certain électorat qui, lui, est antisémite par calcul, tout simplement? Vous croyez qu'ils sont vraiment antisémites?
Ils, tous, non, probablement pas, certainement pas. Que le parti, en revanche, en tant que machine de fonctionnement, se structure autour de l'antisémitisme, c'est-à-dire en face un vecteur et pas simplement une cinquième roue de carrosse ou un petit élément annexe, évidemment, LFI est une structuration et dans une structuration qui fonctionne, qui carbure à l'antisémitisme et qui alimente l'antisémitisme. Je veux dire... Aujourd'hui, des personnes qui s'en insurgent et disent que c'est pas possible, c'est pas vrai, qu'il n'y a eu aucune condamnation, etc. etc. Pardon, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que la somme de tous les propos, l'ironisation sur les noms? Je rappelle, on évoquait l'affaire Mera, qu'il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon, ici même, nous avait fait une séquence... Mais alors, proprement à vomir sur le fait que oui, que c'était quand même un petit peu une histoire de complot, cette histoire-là, comme par hasard, on nous a sorti ça juste avant.
Il y avait une oligarchie mondiale qui contrôlait les élections et qui avait sorti le petit bruit.
Alors ça, c'est les vieux clichés.
Ça, c'est hallucinant. Je n'ai jamais entendu, jamais entendu le candidat, la tête de liste LFI, ici à Toulouse, François Piquemal, se détacher, je ne dis même pas dénoncer.
Au moins se désolidariser.
Se désolidariser ou se détacher de ces propos-là, qui concernent quand même sa ville, sur laquelle il nous a écrit de nombreuses pages, de nombreuses choses, de nombreux articles, etc.
Il est historien, François Piquemal.
Oui, il est historien, il est professeur, il est enseignant, donc il sait le poids de ces choses-là, il sait le poids de ces mots-là, il le sait parfaitement. Je ne l'ai jamais lu ou entendu venir nous parler de ce qui s'était passé un 19 mars 2012 à l'école aux Aratora. Ça, c'est quelque chose qui est... Qui est absolument effrayant. Alors, est-ce qu'ils sont passionnément antisémites? Oui, et pas simplement parce que la justice a admis qu'on pouvait effectivement le dire, à raison. Je rappelle que dans la décision qui a relaxé Raphaël Endoven, il était clairement dit dans le dossier de justice, il a été dit que c'était également lié en fonction des propos récurrents dits régulièrement par les responsables de ce parti. Est-ce qu'il cherche également à flatter un électorat antisémite? Oui, également. Ou en tout cas, lui permettre, en jouant sur une corde sensible, de faire des gros clins d'œil très très appuyés pour, disons-le clairement, aller ratisser, aller chercher un vote communautarisé.
Une ville dont les résultats, évidemment, sont regardés de près, et pour cause, c'est la capitale, Paris. On a vu les résultats du premier tour. Le représentant de l'actuelle majorité de gauche, donc Emmanuel Grégoire, on a vu qu'il résistait plutôt bien, hein, malgré tout ce qu'on peut dire sur la gestion d'Anne Hidalgo, face au bloc central qui lui se présentait en ordre dispersé. Est-ce que vous croyez que malgré l'union de Rachida Dati et de Pierre-Yves Bournazel, le désistement de Sarah Knafo en faveur de la candidate LR et le maintien de Sonia Chikirou, la candidate LFI, est-ce que vous pensez que la capitale va rester quand même à gauche, Christian Autier?
Voilà, ce serait bien prétentieux, là, comme bien d'autres villes, y compris Toulouse, de donner un pronostic. Non, vraiment, ça va être, je pense...
Il est quand même ça sera quand même très symbolique, hein, je pense,
ça sera un scrutin serré. La dynamique de l'union, apparemment, extérieurement, devrait bénéficier, même si c'est une union fragile, enfin, qui a été négociée de manière assez laborieuse, devrait logiquement favoriser Rachida Dati. Là aussi, comment vont réagir les électeurs LFI? Est-ce qu'ils vont se reporter sur leur candidate ou est-ce qu'ils vont, comme on disait, faire barrage au retour de la droite, etc. Non, là, j'ai vraiment pas de... Je pense...
Ça s'annonce serré, en tout cas.
Voilà, ça, je ne pense pas me tromper.
En tout cas, là, il y a une vraie question. Est-ce que c'est Rachida Dati qui, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, serait élu ou est-ce que ce serait Emmanuel Grégoire qui serait battu? Parce qu'effectivement, on a Rachida Dati qui était très loin de Emmanuel Grégoire
au premier tour,
oui. Mais qui bénéficie, alors sur sa droite extrême, hein, encore un petit peu plus loin, qui bénéficie du désistement. Et puis de l'autre côté, nous avons Emmanuel Grégoire qui, lui, non seulement ne bénéficie pas du désistement de la candidate de la gauche extrême, mais alors qui en plus, si vous avez pu assister
au débat là, qu'il y a eu entre les trois,
on a se demander, enfin clairement, qui est le véritable ennemi. Effectivement,
elle s'en est pris beaucoup plus Sonia Chikirou à Emmanuel Grégoire qu'à Rachida Dati.
Effectivement.
Parce que tout le monde l'a constaté.
Et je pense que s'il y a des arrondissements à gouverner ensemble entre PS et LFI, ça va être à Paris, ça va être très très sympathique, hein, parce qu'avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein.
Ouais,
donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, en clair, en gros, quel est l'enjeu pour LFI dans ce cas-là? Se faire élire? Absolument pas. C'est inenvisageable. Faire perdre le PS?
Le représentant du PS.
Peut-être que là, en tout cas, la question mérite d'être posée.
Jean-Luc Mélenchon, on sait que lui... En tout cas, beaucoup de gens le disent, il veut la peau du PS.
Clairement.
Et il faut se demander ce qui va se passer après ces fameuses alliances.
Et là, pour le coup, je crois qu'on peut reprocher
2027.
Énormément de choses à Jean-Luc Mélenchon, mais pas sa constance. Parce que ça fait des années, non seulement qu'il le dit, et ça fait des années qu'il le met en pratique. Avec, effectivement, un résultat clair et net. Enfin, on a eu une séquence qui est absolument lunaire. Vous l'évoquiez à Nantes, il y a eu également une fusion. La maire de Nantes fait un tweet pour annoncer qu'il y a fusion.
Johanna Roland.
Un député LFI répond à ce tweet en disant,
je l'ai vu.
Il y a 4 jours, elle disait qu'il n'y aurait aucune alliance. Ne croyez jamais ces gens. Ça n'est pas de la part de quelqu'un qui est censé être un adversaire politique.
Oui.
On a ce tweet-là de la part de quelqu'un qui est un parti qui vient de faire fusion avec. C'est complètement lunaire.
Mais pour aller dans votre sens, il y a aussi cette fameuse vidéo qui a beaucoup tourné depuis dimanche. On voit Jean-Luc Mélenchon à une tribune dire, en parlant des socialistes, ce sont de gros combinards, vous verrez, on les achètera pour pas cher. Je pense que vous l'avez vu.
Exactement.
Cette vidéo. Bon, ça va un petit peu dans le même sens.
C'est ça.
Je disais ça.
Et on est dans cette...
Tout le monde peut la trouver.
Si d'aucuns pensaient que nous étions face à une lune de miel, je pense que parmi les nouveaux alliancés, parmi les nouveaux mariés, il n'y en a pas beaucoup qui verront ne serait-ce que le lendemain de la lune de miel.
Pour terminer, globalement, ce qu'on appelle le bloc central, alors ce qui va grosso modo de Renaissance, Modem, jusqu'à l'aile la plus centriste DLR, est-ce que c'est lui le grand perdant de ce premier tour, en attendant les résultats du second quand même, comme n'hésitent pas à l'affirmer certains commentateurs politiques? Est-ce que vous avez aussi une analyse qui va dans ce sens, ou est-ce qu'on exagère un peu?
Là, je vais avoir peut-être un avis un peu plus nuancé, parce qu'ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas percé, ça c'est objectivement, soyons... mais ils n'ont pas disparu. Pour autant, ils sont même plutôt bien placés dans certaines villes. Édouard Philippe, me semble-t-il, a fait...
Oui, lui, alors qu'on l'annonçait en difficulté,
voilà, il aurait
été élu sans trop de problèmes.
Qui, hein. Qui ferait baver bien un nombre de personnes des autres bords. Donc non, le bloc central... est sur la reculade et sur la défensive, hein, très, très, très clairement.
Ça,
il n'est pas forcément en phase de conquête.
Il l'est depuis 2022. Pour
voilà.
Dire.
Et peut-être que donc il faudra, après reconquête, il va peut-être falloir aussi là inventer un autre mot. Là, il s'appelle Renaissance. Il va falloir peut-être retrouver, je ne sais pas, une autre chose pour les qualifier. Mais il ne faudrait peut-être pas les enterrer trop vite non plus.
Christian Thier.
Oui, même analyse. On a tendance à confondre, à faire l'amalgame entre les scores de Renaissance qui, effectivement, comme tout le monde le dit et le sait, n'a pas d'ancrage local authentique pour des élections municipales, et ce qu'on appelle le bloc central, donc qui va du MoDem, qui recouvre le MoDem, l'Horizon, voire LR. Donc si on prend, on a cité Édouard Philippe, je pense qu'il me semble que François Bayrou aussi a fait un bon score dans la ville de Pau.
Oui, tout à fait.
Si Jean-Luc Moudin, qui est réélu dimanche prochain à Toulouse, on peut estimer qu'il fait partie du bloc central, puisqu'il est appuyé.
En admettant aussi que Jean-Michel Aulas, on ne sait pas, hein.
Si, accélère.
C'est pas gagné, hein, mais bon, s'il reprend.
Donc, on prend des figures comme ça, Rachida Dati, elle sort du gouvernement. Bon. Donc, le bloc central. Après, le problème de ce fameux bloc central, c'est qu'effectivement, comme le nom l'indique, c'est quelque chose d'un peu évanescent. Et que pour les prochaines échéances, et en particulier la présidentielle, si le bloc central a 8 ou 10 candidats, ou même, je plaisante, mais s'il en a 3 ou 4, ce qui est.
Il y en a beaucoup sur la ligne de départ aujourd'hui.
Dans le domaine du possible, c'est fini. Là, pour le coup, le bloc central disparaîtra.
Il va disperser, oui, on peut le penser. Écoutez, on va en rester là pour ce premier débat. Le second tour a donc lieu dimanche prochain, partout en France, où le premier n'a pas suffi à départager les candidats en lice. La parole est maintenant aux électeurs, parce que ce sont quand même eux qui décident, ne l'oublions pas, à chacun et chacune de le faire en son âme et conscience. Petite pause dans cette émission. On se retrouve dans une vingtaine de secondes pour débattre d'un autre sujet. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct, je suis toujours en compagnie de Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, et de Christian Autier, écrivain et journaliste. Pendant que les citoyens votaient pour élire leur maire, Emmanuel Macron décidait de réunir un conseil de défense consacré à la crise au Moyen-Orient. Il a eu lieu mardi, et à son issue, le chef de l'État a annoncé qu'il excluait que la France participe à une opération militaire pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a déclaré que, j'ouvre les guillemets, « nous ne sommes pas partie prenante au conflit et donc jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel ». Il a cependant précisé ensuite qu'il était prêt à envisager des escortes de navires une fois que les bombardements seraient stoppés. Est-ce que la position française défendue par Emmanuel Macron vous semble sage, compte tenu de l'évolution du conflit, et est-elle conforme, selon vous, à nos intérêts économiques et stratégiques dans cette région du monde? Je pose d'abord la question à Christian Autier.
Sur le fond, oui, je partage plutôt ce refus de s'ingérer, de prendre part à ce conflit auquel nous n'avons pas participé, sinon en tant que victime collatérale. Mais après, on peut toujours se demander dans ce genre de position, ça me faisait penser à la position de Jacques Chirac en 2003 face à la guerre en Irak, si c'est vraiment de la conviction ou un manque de moyens. Alors, je ne suis pas spécialiste des questions militaires et de nos moyens. Je sais qu'on a un remarquable porte-avions, qu'on en aura sans doute un deuxième. Mais voilà, c'est toujours après l'interrogation. Même si on voulait faire la guerre à l'Iran ou porter notre concours à la coalition américano-israélienne, quels sont nos moyens de projection sur ce théâtre d'opération?
Oui. Guillaume Agulot.
Ah, moi, je vais peut-être avoir un avis un petit peu différent parce que justement, et je relève une sorte de dichotomie entre les propos du président de la République, nous ne sommes pas partie prenante de ce conflit, et une réalité sur le terrain qui montre que si, en réalité, nous sommes partie prenante dans ce conflit. À notre corps défendant, probablement, certainement, évidemment, mais nous y sommes. Avec des moyens qui sont considérables, et qui sont en réalité, au-delà des messages qui peuvent être annoncés dans l'opinion, qui sont en réalité des messages adressés à toutes les autres puissances au monde. Nous avons aujourd'hui, c'est la première fois en 40 ans que la marine française a pu réaliser ça. Nous avons, je crois, les deux tiers de notre flotte, sous-marine, hein,
oui.
Qui est à la mer et qui est en opération. C'est remarquable de mobilisation. Allez en parler aux Anglais. Allez en parler à la Royal Navy, qui est incapable de faire appareiller un seul de ces bateaux. Nous en avons 13. À la mer, des navires de premier rang, comme on dit, évidemment. Donc, on a déjà une présence là qui est conséquente, dont, évidemment, notre porte-avions, le Charles de Gaulle. Et puis, nous avons d'autres avions, puisqu'on a des bases qui sont là, avec des alliés, des bases notamment aux Émirats Arabes Unis. On a une base permanente avec 6 Rafales. Cette base permanente avec 6 Rafales vient d'être doublée. Nous avons 12 Rafales. Ça veut dire que très concrètement, techniquement, nous avons une présence permanente dans les airs pour protéger nos alliés. Les chiffres qui sont donnés évidemment au compte-gouttes, on ne délivre pas tout, nous disent que des dizaines, je cite le chef d'état-major de l'armée qui annonce ça, des dizaines de missiles et de drones ont été déjà abattus par les rafales. Ça, c'est extrêmement intéressant, y compris en termes éventuellement de contrats à venir.
Montrer l'efficacité.
L'efficacité, parce qu'il y a une chose qui est sûre, nous avons des bateaux, nous avons des avions, mais on a très peu de munitions. Ça, oui. Et donc, je ne suis vraiment pas sûr que nous avons la capacité de lancer à chaque fois un missile à je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros pour abattre un drone fabriqué à bas coût
en
Iran.
Plutôt 15 000.
Donc, ça veut dire que très concrètement, la plupart de ces drones sont abattus au canon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un avion de chasse qui est capable de faire ça, il y en a très très peu, parce que c'est toujours la difficulté. Le canon, c'est vraiment l'arme de dernier recours, ou pour bombarder au sol, mais pas plus. Ça veut dire que nous, on a réussi, je ne sais pas comment, à maîtriser ça. Et c'est pour ça qu'on en a envoyé 6 de plus, hein, des rafales, parce que ça fonctionne et c'est efficace. Pour autant, est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire on va pas aujourd'hui pour débloquer le détroit d'Ormuz? Oui, il a entièrement raison, pour plein de raisons. D'abord, le conflit est totalement ouvert. Faut pas oublier que l'Iran a quand même une largeur de côte qui est conséquente là-dessus, avec des moyens qui sont encore considérables. La bête est au sol, la bête est très blessée, mais la bête est encore en capacité de bouger et de réagir, donc,
et de faire mal.
Et de faire très très mal. Donc oui, on a raison de pas y aller. Et puis, il va y avoir un autre problème. Avant de penser à escorter les bateaux, il va peut-être falloir le déminer, cette route maritime, parce que là, ça risque d'être encore un autre problème. Donc, la position de Macron, je la comprends. Nous sommes partie prenante objectivement. Il y a une autre chose, peut-être qu'on est aussi en train de montrer, avec moins de paroles et un peu plus d'actes, qu'une stratégie militaire, ça ne s'improvise pas avec des discours enflammés, avec quand on porte une cravate rouge et des cheveux au vent, mais que ça se réfléchit en amont. Il faut d'abord avoir des buts de guerre qui sont précis. Je ne sais pas si Trump va pas de nouveau changer pour la énième fois ses buts de guerre. En tout cas, pour nous, c'est très très clair. C'est stabilisation de nos alliés, protection de nos alliés, démonstration de force, et de protection de nos intérêts premiers et seconds. Et ensuite, on verra pour le transport des hydrocarbures.
Est-ce que ça a clarifié la position de la France, la déclaration d'Emmanuel Macron, justement, par rapport à ses premières déclarations? Moi, je n'avais pas été averti de ce qui s'est passé là. Et c'est vrai, ça peut paraître un peu curieux. Lorsqu'on a lancé, on est à l'initiative d'un conflit dans lequel on n'a pas sollicité ses alliés, et au moment où ça commence, ça va durer plus longtemps que prévu, de leur dire « Ah, au fait, vous ne pourriez pas venir nous aider ». Un peu curieux quand même, Christian.
Oui, non, je voulais compléter sur notre puissance ou notre influence avec l'exemple du Liban dans cette crise, puisque c'est le pays, j'allais dire, c'est notre zone d'influence par excellence. C'est un pays ami qu'on a entre guillemets contribué à la création. Et la France est très impliquée, y compris ces derniers jours et ces dernières semaines, dans la préservation du Liban. Mais là aussi, qu'est-ce que fait la France? La très bonne volonté, mais on a envoyé quelques blindés, alors je ne sais pas quel est le chiffre, quelques blindés destinés à l'armée libanaise, mais bon, je ne vois pas à quoi ils vont leur servir, et des tonnes de médicaments, ce qui est formidable, parce qu'effectivement, il y a la population civile qui souffre. Mais bon, ça, en tout cas, sur ce pays-là, sur cette zone-là, qui est directement impliquée, puisqu'elle subit les assauts de l'armée israélienne, qui vise le Hezbollah et aussi, hélas, des populations civiles, voilà, ça donne le degré, alors que la France, c'est vraiment dans un niveau diplomatique d'implication très haut, voilà ce qu'on peut faire.
Sur ce point, Guillaume Agulot, là, le Liban,
je crois qu'effectivement, le message s'adresse aussi à nos chers amis d'outre-Atlantique, pour leur dire, écoutez, la prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois, donc parce qu'en réalité, on est présent. Nous, on est présent. Par contre, vous ne nous ferez pas faire. Vous ne nous ferez pas servir en fait de roulette supplémentaire pour pallier à votre manque de stratégie à moyen et long terme. Je crois que c'est ça, en réalité, le message. Il est de dire, bon, il y a un conflit, il y est. Nous avons des alliés qui nous appellent à l'aide. Les Émirats Arabes Unis nous ont appelés, hein, ont demandé le renforcement des moyens de protection
de la France. Oui.
De la France. C'est un allié fiable dans ce territoire-là, dans lequel nous sommes implantés, effectivement, durablement. Avec des relations de partenariat qui se passent extrêmement bien, et à tous les niveaux, on peut le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Je crois aussi que pour le président de la République française, vu la façon dont Donald Trump le traite depuis très très longtemps, avoir un petit moyen aujourd'hui de lui balancer un petit coup de pied de l'âne ne doit pas trop lui déplaire à ce niveau-là, sur le mode « on parle moins, on agit plus ».
Oui, alors, cette déclaration d'Emmanuel Macron et les annonces qu'il a pu faire, je parlais de clarification vis-à-vis des Iraniens, bien sûr, vis-à-vis du pouvoir iranien, parce que depuis le début, on se retrouve avec un statut quand même de co-belligérant, qu'on le veuille ou non. Dans les faits, c'est ce qui se passe. Mais est-ce que ça ne clarifie pas, effectivement, comme vous venez de le dire, notre position par rapport aux États-Unis, qui est aussi un allié, pourrait-on dire, historique à travers notre appartenance à l'OTAN? Guillaume Aguilar.
Oui, 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 là, on est clairement en train de dire, vous êtes, Monsieur Trump, vous venez de sortir d'une séquence pendant des mois où vous avez humilié vos alliés, où vous les déconsidérez, rappelons-nous l'épisode du Groenland complètement lunaire, qui est probablement pas fini, hein, qui est, une fois qu'il se sera lassé,
dans un coin, on peut l'imaginer.
Voilà, une fois qu'il se sera lassé de ce qui se passe au proche Moyen-Orient, il va revenir à ses marottes précédentes, je ne doute pas une seule seconde. En tout cas, cette manière de maltraiter ses alliés, y compris au sein de l'OTAN, c'est quelque chose qui est en train aussi de servir de leçon à l'OTAN et à l'Union européenne. Alors, ça fait longtemps ça qu'on le dit, y compris à ce micro, il serait peut-être temps de passer des paroles aux actes.
La défense européenne.
La défense européenne, bien évidemment, etc. N'empêche que je crois que là, tout le monde a à peu près senti le vent du boulet. Et ce que je note, c'est que pendant des mois, en réalité, tous les pays européens ont moins parlé. Et ont peut-être commencé à préparer à agir. Se sont peut-être préparés à agir de concert. Et là, il y a des exercices militaires qui se sont déroulés en Norvège. Il y a des exercices militaires qui sont en train de se dérouler en Pologne. Il y a des exercices militaires qui sont donc sur des théâtres qui sont proches. On a eu une capacité, par exemple, j'évoquais la marine française. Elle est sortie de concert avec un mouvement orchestral absolument remarquable avec la marine italienne, qui est la deuxième marine.
On oublie, ils ont une marine très
européenne.
Forte,
hein,
oui, oui, tout à fait.
Aujourd'hui, et ils ont réussi des manœuvres conjointes, c'est-à-dire calculer les appareillages pour que les bateaux se retrouvent simultanément sur les mêmes zones et se retrouvent sur les zones de patrouille, etc., qui est un chef-d'œuvre arithmétique en fait d'état-major qui a été calculé, qui a été planifié dans un temps record. Ça veut dire que nous avons prouvé à d'autres que s'il fallait réagir en première intention, on n'avait plus besoin qu'on nous sollicite, qu'on nous siffle ou qu'on nous tende la main.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce qui s'est passé là au Moyen-Orient, dans la mesure où les pays européens, la France en premier, n'avaient pas été, semble-t-il, prévenus de l'initiative israélo-américaine, on disait, ça y est, ça montre bien à quel point aujourd'hui l'Europe est complètement hors jeu dans le monde entier, de ce qui se passe entre la Chine, les Américains, le Moyen-Orient, l'Inde bientôt. Est-ce qu'au contraire, finalement, ça ne va pas ressouder les Européens et être, j'aime pas trop le terme, mais une opportunité, pour eux, Christian Autier?
Je crains que non. Après, pour compléter ce qui a été dit, je trouve l'intérêt, s'il y en a un, de cette crise iranienne, et moi je partage pas l'anti-Trumpisme de base, qui est une sorte de bien-pensant sur la Trump.
Si le matin il se levait, tiens, aujourd'hui je vais faire ça sans prévenir personne.
Que des erreurs, etc. Mais cet épisode iranien nous prouve quand même les risques et les périls d'avoir un personnage aussi incontrôlable et peut-être pas très structuré à la tête de la première puissance mondiale. Alors l'avenir nous le dira, j'espère me tromper, mais ce conflit s'enliser, c'est un terme un peu rapide, un peu fort pour quelques semaines, mais enfin ça paraît beaucoup moins rapide que ce qu'on nous avait promis.
A priori,
comme souvent.
Ça ne le sera pas. Bon.
Et voilà, les Américains se retrouvent un peu, on a la sensation, un peu désemparés, du moins au sommet de l'État. Et il y a cette double stratégie, puisque les Israéliens n'ont évidemment pas les mêmes buts de guerre. Pour eux, c'est un conflit existentiel face à l'Iran. Ils sont quasi voisins avec un pays, une grande puissance qui
a juré leur
dans l'objectif
leur
de les détruire. Et les Américains sont là, embringué pour on ne sait pas trop quoi, parce que c'était pas pour instaurer la démocratie, alors ce serait pour les ressources, etc. Enfin voilà, c'est quand même un conflit qui laisse présager, qui suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes.
Sur la question que je posais là, sur le fait que l'Europe pourrait peut-être tirer profit de ce conflit pour les raisons que vous avez évoquées, vraiment là pour le coup on peut reprendre le terme, en se solidarisant pour de bon en termes de défense.
Alors C'est la énième perche que Trump tend aux Européens, à chaque fois, certainement de manière involontaire, mais c'est la énième perche que Trump nous tend. Va bien falloir quand même à un moment donné qu'on se décide à la saisir.
Ouais, qu'on élude pas, voilà. Qu'on esquive pas.
Donc la possibilité existe, elle est là. Est-ce qu'on saura s'en saisir, c'est-à-dire aussi se réorganiser, se restructurer, se lancer effectivement dans des moyens à la hauteur de nos ambitions, ça...
L'avenir nous le dira.
C'est l'avenir qui nous le dira.
Nous allons rester là en attendant la suite, si je puis dire. C'est une suite, il y a. Nous avons deux minutes pour vos coups de gueule ou coups de cœur du moment. Eh bien, Christian Autier, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec ceux qui nous écoutent ?
Oui, un coup de cœur. Alors, c'est un peu avancé, puisque c'est à propos d'un roman qui sortira que le 9 avril. C'est le nouveau roman de Mirouez, ancien musicien, enfin, il est toujours musicien, fondateur de Taxi Girl, les producteurs pour des tas d'artistes, qui s'appelle Nihilium, et qui met en scène dans la France d'aujourd'hui un jeune casseur des beaux quartiers parisiens qui se fait interpeller brutalement après avoir agressé une femme par un conseiller, le responsable de la sécurité du président de la République, et qui va être intégré dans les plus hautes sphères de l'État pour servir de relais au gouvernement. C'est un roman très avec une langue, un argot qui est inventé, qui est très noir, très grinçant, très très drôle, et qui rejoint finalement la première partie de notre discussion avec la description d'une société qui n'a plus de sens et où les oxymores, les contradictions, les paradoxes effrayants effacent le réel.
Rappelez le nom de cet auteur et la maison d'édition.
Nihilium de Mirouez, aux éditions Séguier.
Aux éditions Séguier, excellente maison. Guillaume Agulot, coup de gueule ou coup de cœur ?
Moi, coup de tristesse. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement, il y a 14 ans, aux Arts à Tora, le 19 mars 2012. Et je voudrais juste ici rappeler les noms. Jonathan Sandler, qui avait 30 ans, le père, et ses deux enfants, Gabriel et Arié, 3 ans et 6 ans. Et Myriam Monsonego, qui avait 8 ans, qui ont été assassinés dans une école à Toulouse parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient nés juifs. J'en parle avec toujours beaucoup d'émotion. Pour moi, c'est toujours le 19 mars, c'est toujours une date extrêmement importante parce qu'elle est aussi celle de, j'allais dire, du renouveau de ma matrice d'engagement que j'avais peut-être un petit peu perdue. Malheureusement, ça s'est fait dans des conditions absolument épouvantables et je voulais aussi ce soir ici prononcer leur nom, rappeler leur nom pour que leur mémoire ne s'éteigne pas.
On a l'impression que c'était hier, surtout avec ce qui peut se passer en France aujourd'hui, ce qu'on peut encore entendre dans notre pays aujourd'hui. Et rappelons que c'était la première fois depuis l'occupation que des Juifs étaient tués en France parce que Juifs.
Parce que nés Juifs.
Et ça, quand on y pense comme ça...
Alors c'est la première fois que des enfants juifs étaient nés Juifs. Il y avait eu les attentats dans les années 80, rue des Rosiers, etc. C'est la première fois qu'on s'en est pris à des enfants. Et là, on s'en est pris à des enfants dans une école. Et donc, à ce double titre, c'est quelque chose... C'est passé chez nous. Et là, si on parle de puissance de la mémoire, je crois qu'elle doit devenir non seulement un socle, mais aussi une matrice.
Merci pour d'avoir pensé à eux. Cette 223e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à tous les deux d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission une nouvelle fois. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Rendez-vous jeudi prochain. Pensez à voter dimanche. À bientôt. We'll be right back.